Ariane Ascaride, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Dites donc, vous êtes plutôt pour la paix ou pour le vote en écoutant cette chanson de Stevie Wonder?
Je suis pour les deux, paix et le vote. Indispensable le vote, indispensable la paix. Je fais partie du mouvement de la paix, donc de toute façon.
Espoir, élever le genre humain, on en a plus besoin que jamais. Ce matin, on se réveille avec un coup de massue sur la tête. Hein,
vous savez, c'est terrible. J'ai l'impression que ça s'arrête plus, quoi, que les choses s'enchaînent les unes après les autres. Ce qui s'est passé hier, c'est absolument épouvantable. Et vous savez, j'avais fait un film avec Marie Cassis, Mention Char, qui s'appelait Les Héritiers. Et dans ce film, à un moment donné, il y avait une séquence où j'expliquais à mes élèves une mosaïque du 16e siècle ou 15e siècle où il y avait une représentation de Mahomet. Et mes élèves, à ce moment-là, dans la classe, se mettaient en colère. Et donc, il y avait toute une discussion comme ça. Dans le film, il y avait une discussion. Hier, il n'y a pas eu de discussion, je veux dire. Ce qui s'est passé, c'est épouvantable. Ce qui veut dire aussi, dans une certaine mesure, qu'il faut remettre l'école à sa place et lui redonner toutes les possibilités de pouvoir faire son boulot. La République n'existe pas sans l'école et la République est indispensable. Voilà, ça raconte ça aussi, si vous voulez. Si ça, c'est en train d'entrer à l'intérieur de l'école, alors là, ça va plus aller du tout. Effectivement, je suis contre, mais plus que contre, cet acte d'obscurantisme absolument total. Je suis déjà très admirative des professeurs, du travail qu'ils font. Je trouve que leur travail n'est pas reconnu à la hauteur où ils devraient être reconnus, que ce soit au niveau des salaires ou que ce soit tout simplement au niveau de la reconnaissance symbolique. Un pédagogue, c'est indispensable pour pouvoir vivre, pour que quelqu'un puisse s'élever, pour qu'un enfant apprenne des choses. Et nous devons donner la possibilité aux pédagogues d'apprendre aux enfants la République, c'est-à-dire la chose publique, c'est-à-dire que à l'intérieur de l'école, on a le droit d'échanger, de parler, mais il y a un endroit où on doit apprendre le respect pour tous.
Oui, mais là, quand vous dites qu'il faut remettre l'école à sa place et on doit pouvoir enseigner en toute liberté, il a essayé de le faire.
Mais justement, ben oui, bien sûr qu'il a essayé.
Ça doit venir de la part de qui ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine que ce matin, il y a des professeurs qui se réveillent en se disant « Mais comment je vais faire cours ?
Oui.
Comment je vais parler ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ben ça ne doit pas exister. Voilà, il faut que les parents d'élèves se mobilisent, il faut que les professeurs puissent faire leur boulot, il faut que les proviseurs, il faut que les recteurs, il faut que tout ce qui est l'éducation nationale se mobilise à fond pour que les pédagogues fassent leur travail en paix et en tranquillité.
On ne doit pas céder à la peur ?
Non, jamais. Ça sert à rien la peur. Ça sert à rien. Il faut être attentif, certainement, mais la peur, non. Non, non, de toute façon, c'est sur ça qu'ils jouent, ces gens-là. Sur la peur. Si on cède, on est cuit.
Ariane Ascaride, vous étiez hier soir au théâtre, malgré tout ça.
Ouais.
Sur la scène du théâtre de Paris, rue Blanche, pour la reprise annoncée d'une pièce écrite par Simon Abkarian, le dernier jour du jeûne. Ce matin, vous êtes avec nous, mais ce soir, vous serez à nouveau sur scène ?
Alors, ce soir, je ne serai pas sur scène. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se réorganise, mais je serai sur scène dimanche après-midi. Et on est en train de mettre en place, de se réorganiser de manière à changer les horaires. Et à partir de la semaine prochaine, de pouvoir jouer. On va commencer peut-être à partir de vendredi prochain, on jouera samedi. Peut-être que samedi, on jouera deux fois. Peut-être que... Voilà. Et dimanche, on jouera. Et puis, ça sera comme ça. Et puis, on va pas se désespérer. C'est... Comment vous dire En faisant des films, j'ai eu la possibilité de voyager beaucoup pour aller présenter nos films dans le monde entier. Les gens dans le monde entier sont complètement fascinés par la culture française, la manière dont la culture française existe. Et ils nous disent toujours qu'on a beaucoup de chance. Et je dis on n'a pas beaucoup de chance. On se bat pour que la culture française existe. Eh ben là, je vais faire pareil. Je vais compléter avec mes camarades d'ailleurs, avec Simon Abkarian, avec la direction du Théâtre de Paris, avec Pascal Guillaume qui est notre producteur, qui sont absolument formidables. Ben, on va se battre. Parce que ce qui s'est passé hier soir, dans ma vie, je l'ai rarement vécu. Et je voudrais dire merci à tous les spectateurs qui étaient là hier soir. Parce qu'il y a eu une osmose, quelque chose qui s'est passé. Ça fait longtemps que je fais ce métier, hein. Mais il y a eu d'un coup une communion. Je vous assure, j'en aurais pleuré hier soir au salut. J'en aurais pleuré parce que les gens dans la salle nous remercier de d'avoir fait tout simplement notre travail, quoi. Et moi, j'avais vraiment envie de les remercier d'avoir été là. Oui, c'est un acte de résistance. Non, on tuera pas la culture. Mais sincèrement, l'exception culturelle française, c'est quelque chose de rare. Et ne pas arriver à comprendre que une heure de plus, on demandait pas grand chose. On demande une heure de plus pour les cinémas, pour les théâtres. Et qu'on nous renvoie en bon papa gentil. Ah ben non, tout le monde pareil, hein, parce que sinon ça va pas aller. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est pas réfléchir sur ce qu'est notre pratique. Vous comprenez? Les gens hier soir nous ont dit, oh, on a respiré, parce que c'est vrai que c'est lourd. Je dis pas qu'il faut pas faire de choses. Je sais bien que le virus est là. Il y a aucun problème. J'ai été malade, donc je sais tout ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse pratiquer ce qui est indispensable aussi au fonctionnement d'une société, c'est-à-dire la culture, le cinéma, les concerts. Il va plus y avoir de concerts. Tous les chanteurs sont bloqués. Comment faire? Ils vont faire des concerts à 18h? Alors qu'on avait mis en place des tas de dispositifs sanitaires, je vous assure, c'est certainement pas dans les salles de spectacle qu'il peut se passer quelque chose, quoi. Parce que c'est vraiment, mais incroyable, les gens rentrent, ils sont espacés, ils ne bougent pas tant pour sortir, ils ne bougent pas tant qu'on leur dit pas de sortir, et ils sortent des derniers rangs, ça commence par les derniers rangs et jusqu'au premier rang, enfin. Et les gens se plient à tout ça d'une manière absolument extraordinaire. Je ne sais plus ce que je pourrais dire pour que on essaie de comprendre où il faut. Je suis pas du tout de son bord. Mais alors je vais le dire. Je remercie Roselyne Bachelot. Voilà.
De quoi?
Parce qu'elle se bat. Parce qu'on le sait tous. Elle se bat comme une malade. Elle se bat pour qu'on arrive à pouvoir faire notre métier. Alors c'est rare que je fasse ça, hein, mais là je le fais parce que je trouve que cette femme, là, chapeau.
Dieu de lumière ! Accorde à mes filles le plaisir du corps et la joie de l'esprit. Puisse l'amour faire son nid dans chacun de leurs cœurs innocents.
Tu pries, tu causes, tu chantes, mais il n'y a personne là-haut. La folle, c'est moi pourtant.
Ta sœur, elle est où ? Où veux-tu qu'elle soit ? Elle est dans son délire de pucelle mystique.
Tu peux pas comprendre le mystère qui me hante ?
Quel besoin de comprendre ? Cette histoire de jeûne, c'est des couillonnades. Des entourloupes pour dompter le démon qui danse dans le ventre des filles. Qu'est-ce que je peux pas voir ? T'attrapes un moineau, tu le peins en jaune et tu me le vends comme si c'était un canari ? Et tu crois que je vais rien voir ?
Mais qu'est-ce que tu crois ? Je crois que j'ai pas envie de mordre à pleines dents dans le fruit du plaisir. J'en meurs, j'en crève d'envie. Mais je me donnerai pas au premier chien qui passe.
Celui que j'attends est en train de boire avec papa.
Qui? Le géant, là?
Lui. Dès qu'il est entré, mon cœur s'est emballé. Et je me suis mise à mouiller.
Voilà un extrait de montage, comme on appelle ça dans le jargon, un teaser, Ariane Ascaride, de cette pièce que vous jouez et dont on va dire quand même un mot, non seulement parce que elle donne du baume au cœur et qu'on en a vraiment besoin en ce moment, c'est une pièce vive, c'est une pièce chaleureuse, c'est une pièce sur la comédie humaine, c'est une fresque familiale, féministe, contemporaine, qui se passe dans un quartier, parce que c'est une tragicomédie de quartier, on sait pas où, c'est pas très grave, dans la Méditerrane. Année,
voilà, disons, sur les bords de
sur
la
les rives de la Méditerranée.
Ah, ça comme ça.
C'est une reprise d'une pièce écrite par Simon Abkarian qui date de 2014. Elle a d'ailleurs été reportée une première fois parce qu'elle devait se jouer
pendant
en mars.
Oui, voilà, pendant le confinement.
Mais elle se joue là. Ouais. Elle se joue. Musique, rire pour parler d'un sujet grave, d'un sujet tragique et d'un sujet dramatique.
Oui, mais ça c'est la force de Simon. Déjà, son écriture, elle est incroyable parce que. Simon redonne une immense, enfin, fait entendre la dignité qu'il y a dans la culture populaire, dans le langage populaire. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et en plus, c'est un garçon qui maîtrise extrêmement bien la langue française, mais comme ses origines sont des origines arméniennes, et que la poésie arménienne est une chose très importante dans la culture arménienne, il arrive à mélanger notre français un peu cartésien avec cette poésie-là, et c'est ce qui donne ce langage-là qui est vraiment une joie de pouvoir dire, de pouvoir exprimer. Et effectivement, c'est une famille dans un quartier populaire, des bords de la Méditerranée, Et tout se mélange, c'est-à-dire que on est avec la voisine et c'est des filles. Il faut se marier le dernier jour du jeûne. Vous savez, c'est un jeûne comme ça a toujours existé dans toutes les cultures. Voilà, tout le monde est un peu tendu parce que quand on arrive au dernier jour et en même temps à tout ça, comme Simon est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Ariane Mnouchkine, comme c'est quelqu'un qui adore les tragédies antiques, et ben il mélange tout ça. Et ça donne cette drôle de chose qui en même temps est extrêmement chaleureuse, extrêmement humaine, terriblement humaine. Et ça c'est vraiment une chose que j'ai pu constater chaque fois qu'on a joué ce spectacle, c'est qu'à la fin du spectacle, j'ai jamais vu ça. Hein. C'est la seule fois de ma vie où je joue un spectacle où de tous les côtés où on est allé jouer, à la fin du spectacle tout le monde est debout, tous les spectateurs sont debout. J'ai jamais vu ça. Alors des fois je me dis c'est pas possible. Au début, vous vous dites, ah bah oui, c'est parce que c'est Paris, ils comprennent bien. Non, vous allez jouer ailleurs, c'est pareil. Après, vous allez jouer dans le sud. Vous dites, ah bah oui, c'est parce que c'est la chaleur du... Non, vous allez jouer à Amiens, c'est pareil. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans ce spectacle qui est un peu d'un état de grâce, qui va toucher les gens dans leur intimité propre. Je ne sais pas où, hein, d'ailleurs. Je serais incapable de vous le dire. Mais, voilà, du coup, donc il y a une communication absolument énorme.
Ah bah c'est génial de jouer ça en ce moment.
Ah, c'est un acte de résistance, comme dirait ma fille Zéla dans la pièce.
Dans la pièce.
Oui, c'est un acte de résistance. Oui, c'est génial de jouer ça. Ce qui s'est passé hier soir, je vous assure. Vous savez, avant de jouer, là, c'est quelques jours, quand il est tombé cette histoire de couvre-feu, j'ai pensé à François Truffaut et j'ai pensé au dernier métro, au film. Et je me disais, parce que dans le dernier métro, c'est l'histoire d'un théâtre qui fonctionne pendant la guerre. Alors, je n'arrêtais pas de penser à ça. Je me disais, mais à quelle heure il jouait, bon Dieu, à quelle heure il jouait, pour que les gens puissent venir dans la salle. Je pensais à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à me sortir de ça. Et hier, je me suis dit, hier soir, quand le spectacle a été fini, ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de chose dans la salle qui était, on est là, de la part du public et de notre part. On est là et on reste là et on partage ce moment ensemble. Et donc, ce qui est formidable, c'est que je pense que tous les théâtres aujourd'hui, à Paris, en tout cas dans toutes les régions où il y a le couvre-feu, vont se battre pour exister. On va changer les horaires. Donc là, je fais un appel au public, parce que je sais que vous pouvez le faire. Je fais un appel au public. Débrouillez-vous, posez un RTT, faites un truc, venez nous voir, quoi. Même si c'est plus tôt, si on joue plus tôt, prenez 2 heures, vous dites que vous les rattraperez.
C'est pas toujours facile, hein, mais.
Non,
bon.
Je sais bien que c'est pas facile. Mais voilà. Ça, c'est un appel que je lance, parce que ça vous fera du bien. Parce que c'est pas simple, quoi. C'est pas simple de s'enfermer à 21h. C'est pas simple du tout. Faut le dire, quoi. C'est compliqué. Moi, je suis rentrée hier soir après le théâtre. Je suis rentrée à 11h15. Je suis partie avec ma petite voiture pour rentrer. Je voyais les gens. Ça se bousculait pour rentrer. Je suis arrivée chez moi. C'était 5:00. Désolée. Plus personne. Plus rien. Je suis fatiguée de ça. C'était dur, déjà, hein. Un premier coup, ça a été dur. Bon, c'était aussi la journée. Là, c'est pas la journée, c'est le soir. Mais si vous voulez, moi, je pense qu'il y a eu un traumatisme psychique très important pendant le confinement, dont on parle pas encore assez, mais je pense que ça a vraiment secoué. Moi, je suis comme la tour de Pise. Vous voyez, je suis un peu penchée sur un. Ouais, je penche un peu sur un côté. Alors là, maintenant, ça va me faire pencher de l'autre côté. Je passe mon temps à essayer de me remettre droite. Oui, je sais cette maladie. Oui, je le sais. Je suis pas là. Je ne suis absolument pas inconsciente. Je fais tout ce qu'il faut. Je me lave les mains. Je mets mon masque. Et nous, en plus, dans les théâtres, vraiment, on rigole pas, quoi. Vraiment, c'est très très sérieux. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est à tous les responsables politiques et depuis 30 ans, pas juste ceux de maintenant. Qu'avez-vous fait de la santé publique? Qu'avez-vous fait de l'hôpital? Qu'avez-vous fait? C'est tout.
En mars, Ariane Ascaride, vous aviez écrit pour France Inter une lettre dans laquelle vous vous adressiez à un adolescent que vous aviez aperçu sur un terrain de foot à Montreuil. Et vous lui demandiez pardon parce que lui n'avait pas eu la chance de vos enfants. Vous pointiez dans votre texte les inégalités sociales criantes, mais aussi alors que vous preniez de multiples précautions, à ce moment-là, en mars, vous disiez que lui ne s'embarrassait pas des fameux gestes barrières. Depuis cet été, à la rentrée, les jeunes ont souvent été accusés d'insouciance et d'arrogance. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est eux, au fond, qui payent le prix fort, par exemple, de ce couvre-feu à partir de 21h? Est-ce que c'est le plus dur, c'est quand même pas pour eux?
Bien sûr. Évidemment, vous croyez que c'est facile d'être jeune en ce moment? Vous croyez que c'est facile d'avoir 20 ans aujourd'hui? C'est juste épouvantable. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez plus aller boire un coup. Vous vous posez des questions, est-ce que je peux embrasser une fille ou est-ce que je peux embrasser un garçon? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je vais pas tomber malade? Vous avez des cours en ligne. Vous rentrez même quand vous êtes à l'université. La plupart des cours ne sont plus en classe, quoi, dans les salles. Comment vous vous rencontrez? Comment vous vous croisez? Comment vous échangez? Qu'est-ce que c'est le monde qu'on propose aux jeunes aujourd'hui? Alors les tout petits, ils sont extraordinaires parce qu'ils s'accommodent. Voyez-vous, je vais vous faire une confidence. J'ai un petit-fils depuis 2 mois. Et longtemps, je me suis dit, comment il va nous voir? Ça va être comment? Il va nous voir avec un masque? C'est ça la première image qu'il va voir de ses parents, de ses grands-parents? Enfin, pas de ses parents, bien sûr, mais bon, des gens qui vont venir le voir? Mais c'est terrible! Comment ça va se construire dans sa tête? Alors après, je me dis que les enfants, ils sont hyper forts. Ils ont une espèce de force comme ça, de vie. La vie, elle est en condensé dans leur petit corps, quoi. Donc, ils vont peut-être arriver à tenir le coup. Mais ceux qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans et 20 ans, là, je pense que la vie est difficile pour eux. Et qu'il faut être extrêmement doux, extrêmement gentil, mais vraiment extrêmement gentil, extrêmement attentif à eux. Vraiment. Et que j'ai trouvé ça immonde. Qu'on leur fasse peser sur eux, qu'on les culpabilise en leur disant « Ah bah parce que vous sortez, vous allez faire mourir votre grand-père ou votre grand-mère. » Mais c'est des choses qu'on ne doit jamais dire. Non, ils sont très responsables, beaucoup plus que ce qu'on veut bien dire. Et ils sont pas débiles, ils savent très bien qu'il faut faire attention. Et après, j'ai juste envie de dire aux gens qui râlent, qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans? Comment vous étiez? Vous avez oublié peut-être, non? Que vous sortiez et que vous sortiez librement. Vous savez, en ce moment, des fois, je regarde des films, ça devient presque comme une espèce de magie. Je vois des gens qui s'embrassent dans un film, je vois des gens qui se tiennent par la main, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Eh ben, il faut faire en sorte que ça revienne, quoi. Et que pour l'instant, bon, on est là, on fait attention, on se protège. Mais il faut le dire, il faut avoir de la solidarité, il faut se parler, il faut qu'on se protège ensemble, il faut pas qu'on nous dise, attention, il faut faire bien attention. Non, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Il faut dire, aidons-nous les uns les autres, mais véritablement, aidons-nous.
Il faut le dire ou il faut le faire?
Les deux, mon capitaine. Les deux. Il faut le faire et le dire. Et le dire encore. Mais pas avec, si vous, toujours, cette espèce de chose qui est un peu, excusez-moi de le dire, un peu infantilisante, quoi. Voilà.
Ce matin, vous vous excusez beaucoup de dire des choses comme si vous étiez en colère et que vous reteniez des choses, mais que vous vouliez quand même les dire.
Je suis extrêmement en colère. C'est vrai. Je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement en colère. Je me soigne, parce que c'est fatigant. Mais vous voyez, on nous demande de penser collectif. Le problème, c'est que aujourd'hui, comment les gens pensent la République? Encore une fois, j'y reviens. J'ai juste envie de dire, regardez le taux de participation aux élections. Vous devriez repenser à ça. Les gens vont plus voter. Quand les gens ne vont plus voter, c'est qu'ils se désintéressent de la République. Et si on se désintéresse de la République, c'est ça qui est dangereux. Au contraire, il faut se battre pour se réintéresser et faire sentir à tout le monde qu'il fait partie de la République.
Tout à l'heure, je disais du pur Stevie Wonder. Nous avons ce matin du pur Ariane Ascaride. À tout de suite, Ariane Ascaride. Il est 7h30 sur France Culture. Ariane Ascaride est avec nous ce matin. Ariane Ascaride, comédienne qui joue dans Le Dernier Jour du Jeune, reprise d'une pièce de Simon Abkarian, une tragicomédie de quartier qui célèbre les racines méditerranéennes de son auteur et rend hommage au théâtre de la Grèce antique. Une pièce qui rend également hommage, il faut quand même le dire, Ariane Ascaride, aux femmes C'est un monde qui est régi par les hommes, cette pièce, dans lequel les femmes se battent par la parole, comme vous le faites là d'ailleurs. On entend ce personnage que vous jouez, c'est un personnage qui vous ressemble au fond. C'est un spectacle à la gloire des femmes, cette pièce.
Alors, oui. Oui, je veux dire oui, parce que je pense que Simon c'est quelqu'un... Quand on voit Simon Abkarian, c'est la représentation même du mal méditerranéen, d'accord ? Même du mal arménien, je dirais. Et en même temps, Simon a un immense amour pour les femmes et surtout une vraie écoute des femmes. Il écoute les femmes. Simon, il peut pas fonctionner sans des femmes autour de lui. C'est pas compliqué. Et il écoute et il récupère et il entend et après, il reproduit. Par exemple, je pense pas dévoiler quelque chose de très intime chez lui. Il y a des choses que je dis. C'est sa mère, voilà. Et sa mère et Simon travaille avec sa femme et travaille avec sa sœur aussi. Sa sœur est toujours là pendant qu'on fait les spectacles. Et c'est vrai qu'il a cette manière assez incroyable parce qu'il donne dans ce spectacle. Il y a des tas de femmes, quoi. Il y a des tas de personnages féminins. Il y a Nouritsa qui est porteuse de toute la tradition, de la superstition, et en même temps de cette vision aiguë du monde presque instinctive. Il y a sa sœur qui est une intellectuelle complètement jetée, mais qui a aussi un discours et qui a un discours où elle dit que les hommes nous ont tout pris, nous ont tout volé, nous ont laissé rien que des restes en partage. Il y a mes deux filles, dont une qui est plus dans la sensualité, dans l'envie de se marier, et l'autre qui est dans une espèce de mythe de pureté, de faire le jeûne pour arriver à trouver l'homme. Et puis il y a ces hommes là qui sont là, qui rentrent dans le spectacle, le fiancé, l'étranger. Il y a un étranger qui arrive par la mer, c'est pas innocent non plus. Et puis il y a quelque chose dans ce quartier qui va être commis, qui est terrible et qu'on va régler, que le personnage de Simon va régler d'une manière antique, mais c'est vraiment défendu comme ça et représenté comme ça, et qui est une chose terrible, c'est-à-dire la violence faite sur une petite fille, quoi.
Et si on l'écoutait, Simon Abkarian, parlait de sa pièce, il était à ce micro en 2018.
Pourquoi j'ai écrit des textes comme ça pour les filles, c'était que bon, depuis 3000 ans de monothéisme, on va dire, d'histoire patriarcale, on a confisqué la parole du temporel au divin, on l'a confisqué aux femmes, c'est-à-dire les intercesseurs entre le temporel et le divin sont des hommes en général, au système capillaire bien fourni, et je me suis dit Pourquoi ce serait pas les femmes qui de nouveau, parce que ça a existé, les femmes qui officiaient et qui enseignaient et qui ouvraient la voie. Pourquoi ce serait pas de nouveau elles qui tout d'un coup s'empareraient? Parce que quand on donne un rôle à une femme comme ça, on écrit, souvent vous lisez c'est subissant qu'elle agit, et c'est que de l'horizontalité, c'est que du temporel, c'est que du concret, c'est que, il y a pas d'envol chez les femmes, il y a l'esprit, il y a pas de spirituel. Moi, j'avais envie que ces femmes-là soient aussi spirituelles qu'un homme. Il n'y a pas un esprit masculin, un esprit féminin. Il y a des esprits qui sont capables de parler à Dieu ou pas, point barre. Pour moi, le reste, je m'en fiche complètement, quoi. Et le jour où dans les églises, on verra, ou dans les mosquées, ou dans les synagogues, on verra des femmes qui officient, je pense que le peuple des croyants aura fait un grand pas.
Ariane Ascaride.
Bah, c'est lui tout craché, quoi. C'est formidable de l'entendre parler comme ça, ça fait plaisir.
C'est aussi une pièce.
Il parle comme ça tout le temps, hein, ça c'est vrai, il faut le dire.
C'est aussi une pièce qui résonne particulièrement avec ce qui se passe aujourd'hui, à tout point de vue d'ailleurs.
Même écologiquement.
Oui, et puis même évidemment concernant les débats au sein même du féminisme aujourd'hui, de ses excès, de ses dérives avec ses différents personnages. C'est une pièce qui résonne.
Ben oui, et hier soir c'était étonnant parce que ça fait quand même un moment que on la joue avec par intermittence, avec des temps d'arrêt, puis on la reprend. Et hier soir, quand je l'écoutais, je me disais, mais c'est incroyable, je suis sûre que les gens, ils se disent, oh, ah bah oui, ça résonne d'une manière insensé. Et particulièrement, effectivement, sur aujourd'hui, avec tous les mouvements féministes, ou je sais pas comment il faut les appeler, mais enfin, en tout cas, avec cette parole reprise par les femmes, les jeunes femmes. Mais je voudrais dire que cette parole-là, il y a des filles qui ont aujourd'hui 70 ans, et même un peu plus, qui se sont déjà battues, celles qu'on appelait les hystériques.
Ben vous avez justement participé à un livre audio pour le 40e anniversaire de la collection La Bibliothèque des Voix, des éditions des femmes, collection créée par Antoinette Fouque, une pionnière du féminisme, fondatrice du mouvement de libération des femmes, du MLF. Elle est morte en 2014. Et cette Bibliothèque des Voix a donc 40 ans puisqu'elle l'a créée en 1980. Là, c'est vous qu'on va écouter dans un extrait. Vous lisez des textes d'Antoinette Fouque ou des entretiens, c'est ce qu'on entend.
Il y a une continuité étrange, mais certaine, entre ce qu'il est convenu d'appeler l'inculture et les différentes strates de la culture. La culture antique, prémoderne, préculturelle, préhistorique, et la culture orale, ce qui s'en transmet par la voix, par les paysages, par les sites, par les pierres, puis ce qui s'en écrit. J'ai beaucoup travaillé sur le rapport de l'oral à l'écrit, sur l'écrit qui écrase l'oral, le refoule, qui n'en veut pas. Sur l'obsessionnalité de l'écrivain, comme le dit Jean-Paul Sartre, l'écrivain capitalise le sens, fait raconter des histoires aux gens pour se les approprier. Je suis l'auteur de ce livre, j'ai autorité.
Ascaride. Ça aussi, ça résonne particulièrement avec aujourd'hui. En fait, tout ça, ça a beaucoup d'actualité.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, Antoinette Fouque disait toujours qu'elle a créé, ce besoin de l'oralité et de faire cette bibliothèque pour les femmes parce que sa mère ne savait pas lire. Et moi, je pense avec elle, enfin derrière elle, je dirais, je pense que c'est une chose formidable que la voix. Et la voix va raconter votre origine, va raconter votre histoire, va raconter votre science ou votre non-science. Et la voix des femmes a souvent été éteinte ou étouffée. Et effectivement, c'est vrai ce qu'elle dit. Souvent, un auteur, un écrivain, pendant longtemps, il écoute. Et puis, hop, il retranscrit et il dit, c'est moi l'autorité. Vous savez, c'est quelqu'un qui faisait très bien ça, enfin, qui était très, très fort. C'est tout simplement Marcel Pagnol. Parce que Marcel Pagnol, il avait une oreille qui devait faire 2 mètres sur 4, quoi. Il écoutait comme un fou. Et il a su retranscrire. Et n'oublions jamais que Marcel Pagnol, c'était un grand helléniste, c'était aussi quelqu'un empreint de l'Antiquité et de l'écriture des tragédies grecques. Hein.
Vous aussi, Ariane Ascaride, vous avez une voix qui porte, vous avez une voix populaire également.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que cette popularité, alors à tous les sens de ce terme, toutes ses acceptions, qu'est-ce que cette popularité, cette notoriété aussi peut aider à faire? J'y pense à cette question parce que il y a un an, vous receviez le prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise pour votre rôle dans Gloria Mundi, le dernier film de Robert Guédiguian, où vous incarnez une femme de ménage qui se bat pour sa famille. Et aujourd'hui, vous êtes la marraine du Secours Populaire. Et on y voit des liens, des résonances entre votre vie et ces rôles que vous incarnez. C'est ça, la force de la popularité aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir porter votre voix ailleurs qu'au cinéma, dans le monde de la vie civile, disons.
Écoutez, moi je viens d'un milieu très simple. J'ai été élevée par des femmes qui n'avaient absolument pas, dans une certaine mesure, non, absolument pas droit à la parole, qui faisaient, qui n'arrêtait pas de faire, qui travaillait. Moi, j'avais une grand-mère, elle se levait tous les jours à 5 heures du matin pour aller faire des ménages dans les bureaux. Elle sortait des ménages dans les bureaux, elle venait, après elle rentrait chez elle, de temps en temps elle récupérait un des enfants d'une de ses filles et elle les gardait pendant que ses filles allaient travailler, puisque ma mère, entre autres, ma mère travaillait. Ma mère se levait le matin très tôt, elle allait faire les courses parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de supermarché et puis ça n'a jamais été la pratique. On faisait ça dans le quartier, elle allait faire les courses, après elle changeait de chaussures, elle mettait les chaussures à talons, elle allait travailler, elle revenait à midi, elle faisait à manger pour mon père, après elle repartait travailler, après elle revenait le soir, elle refaisait à manger, elle refaisait les courses, voilà. Moi j'ai été élevée par des femmes comme ça. D'accord? Donc ces femmes-là, c'est pas des femmes qui parlaient, qui émettaient du discours, mais elles disaient des choses. Il fallait juste, de temps en temps dans la journée, elles disaient des choses comme ça. Et donc, en me battant, parce que je dois dire que je me suis quand même énormément battue pour être, par exemple, à votre micro ce matin, c'est pas si simple que ça, c'est pas du tout évident.
On vous remercie d'ailleurs.
Je vous en prie, mais c'était pas du tout évident que j'arrive à faire ce parcours-là. Sincèrement, j'avais rien pour. À un moment donné, où j'oublie, où je n'ai pas de mémoire, et j'essaie de me, d'être ce qu'on attend d'une actrice. Vous voyez, l'image, je vais donner cette image-là, où j'ai de la mémoire. Et moi, j'ai de la mémoire. J'y peux rien, c'est comme ça, je l'ai pas, au fond, je sais pas si je l'ai décidé, mais j'ai de la mémoire. C'est de ces gens-là que je viens. Alors donc, aujourd'hui, si je suis un peu connue, j'ai envie, parce que quand je suis arrivée à Paris, j'ai été obligée de changer ma voix, j'ai été obligée de changer mon accent, j'ai été obligée de changer ma culture. Et ben aujourd'hui, si je peux, en la transformant par l'art justement, et c'est à ça que ça sert l'art aussi, si je peux par l'art transformer un peu, mais faire entendre la voix de ces gens-là, de ce monde-là qui est un monde d'une dignité incroyable, eh ben je le fais. Si je suis et je suis heureuse de faire partie du Secours populaire, parce que c'est, on n'est pas dans la charité, on est dans la solidarité. Ce sont des gens qui aident les autres et ce sont des gens qui ont pas plus de sous que les autres. C'est juste à un moment donné, on peut aider et puis peut-être ça sera à un autre moment donné celui que vous avez aidé vous aidera. C'est-à-dire que là vraiment, c'est collectif, ça s'échange quoi. Il faut échanger
et se rencontrer. Ariane Ascaride, parlez-nous du choix musical que vous avez apporté ce matin.
Ah, alors, c'est parce que j'ai... Enfin, pas tout le monde le sait, mais je suis très attachée à l'Arménie. C'est un pays qui m'a appris... justement, vous voyez, on parlait de ça, c'est un pays qui m'a appris ou qui m'a remis en tête un sentiment dont on parle peu en Europe occidentale, c'est la bonté. Les Arméniens sont des gens d'une bonté incroyable, d'une hospitalité, d'une grande culture millénaire... Ce sont des gens qui vivent avec la poésie, ce sont des gens qui vivent avec la musique, ce sont des gens qui souffrent en ce moment, qui se battent avec pas grand-chose contre une espèce de machin de l'Azerbaïdjan qui arrive et qui veut vraiment les écraser. Et alors donc voilà, j'ai voulu mettre cette chanson qui s'appelle Yerevan, qui est Yerevan, la capitale d'Arménie.
De l'ensemble Kohar. Ariane Ascaride d'être venue ce matin après avoir joué hier soir au théâtre. Vous y serez à nouveau alors demain après-midi de façon certaine.
À demain après-midi, absolument.
Voilà.
On vous attend à 15h30.
Et alors où? C'est au théâtre de Paris. Donc pour l'instant, c'est pour les auditeurs parisiens, le dernier jour du jeûne. Pièce de Simon Abkarian avec foultitude d'excellents acteurs. Vous restez avec nous pour la Fabrique médiatique. On est assez en retard. Il est 7h47. Vous écoutez France Culture.